Eh bien, ce n'est pas un scoop que je vous dis aujourd'hui, c'est que nous sommes le dimanche de Pentecôte. Et le dimanche de Pentecôte, pour les uns, ça peut évoquer la feria. Ça peut évoquer que le lendemain du dimanche, il y a un lundi, et que ça fait un joli week-end. Mais pour nous, ça évoque autre chose. Pentecôte, un événement unique, unique, qui aurait fait probablement les choux gras de la presse s'il avait existé. Mieux que la présence de la presse, nous avons le récit de cet événement par Luc dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, les versets 1 à 13. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et à ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration. Ils se disaient les uns aux autres : mais ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du pont de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de Libye voisine, de Cyrène, et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres : mais qu'est-ce que cela veut dire ? Mais d'autres se moquaient en disant : ils sont pleins de pain doux. Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes : hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est 9h du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël : dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres : frères, que ferons-nous ? Pierre leur dit : changez d'attitude, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant : sauvez-vous de cette génération pervertie. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Alors je vous propose, à partir de ce texte, de redire déjà quelques mots sur la fête de la Pentecôte elle-même, à quoi elle correspondait, l'examen des faits, les effets et aujourd'hui, maintenant. De Pentecôte. La fête de la Pentecôte est une des trois grandes fêtes juives avec la Pâque et la fête des tabernacles. Elle trouve son origine dans l'Ancien Testament, dans le Lévitique 23, sous le nom de fête des semaines, parfois même appelée aussi fête des moissons, ou encore jour des prémices. Lévitique 23, verset 10. Transmet ces instructions aux Israélites. Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au prêtre la première gerbe de votre moisson. Il fera avec la gerbe le geste de présentation devant l'Éternel afin qu'elle soit acceptée, et il fera le geste de présentation le lendemain du sabbat. Depuis ce lendemain du sabbat jusqu'à que le jour où vous apporterez la gerbe pour faire le geste de présentation, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez une offrande nouvelle à l'Éternel. Et c'est ainsi donc qu'apparu bien plus tard le mot Pentecôte qui signifie littéralement en grec 50e. Ils viennent du monde entier pour la fête. La fête des semaines, ou fête de la Pentecôte, était donc une fête de réjouissance, puisqu'il donc il y avait 3 pèlerinages donc à chaque fois avec ces grandes fêtes. Donc ils viennent de partout. Une fête très populaire. Et à l'époque de notre récit, les Juifs venaient à Jérusalem en pèlerinage du monde entier. Il y en a qui venaient de très loin pour apporter à Dieu dans le temple les prémices des bénédictions que Dieu leur avait accordées dans leur récolte. Et notre texte, d'ailleurs, souligne bien cette réalité. Alors, examinons de plus près les faits. Donc, la diaspora est présente pour la fête. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et on l'a déjà lu tout à l'heure, donc il y a les... Vous imaginez un petit peu tous ces gens qui venaient à l'époque, de très loin. Partes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du pont de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Alors, ils étaient là, tous ensemble. Que faisaient-ils ? Au chapitre précédent, donc au chapitre 1 des Actes, nous savons que il y a eu l'ascension de Jésus, et donc ils retournèrent à Jérusalem, tous, d'un commun accord, et ils persévéraient dans la prière. C'est ce que nous voyons au verset 14 d'Acte 1. Qui était là ? Alors, probablement les 120 mentionnés en Acte 1, verset 15. À cette époque-là, Pierre se leva au milieu des disciples. Le nombre des personnes réunies était environ 120. Alors, que faisait-il là ? Qui était là ? Et pourquoi ? Ils attendaient probablement l'accomplissement de la promesse faite par Jésus, juste avant de les quitter. Acte 1, verset 5, il leur a dit, « Jean a baptisé d'eau, mais vous, c'est un baptême dans l'esprit que vous recevrez d'ici peu. Mais vous recevrez une puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » L'événement. Donc les disciples étaient là, tous ensemble, quand tout à coup, dit le texte du verset 2, se produisaient des choses extraordinaires. Tout à coup, donc, le Saint-Esprit se manifeste de façon extraordinaire. Comment ? D'abord par un bruit, comme celui d'un vent violent. À noter ici qu'il ne s'agit pas d'un vent, mais d'un bruit comme celui d'un vent violent. Le bruit était tel, au verset 6, qu'ils accoururent en foule. Donc ça a dû y aller. À l'évidence, Dieu s'est servi de ce bruit venant du ciel, ce bruit surnaturel, pour attirer leur attention. Et ensuite, par un signe visible, donc par un bruit, par un signe visible, des langues qui semblaient de feu posées sur chacun des disciples. Verset 3, « Des langues qui semblaient de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. » Le feu dans les Écritures, quand il est associé à Dieu, nous parle de sainteté, de purification et de jugement. Peut-être avons-nous ici, avec cette manifestation visible de l'Esprit, l'accomplissement d'une des paroles de Jean-Baptiste. Mais moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de délier les courroies de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Il vous baptisera de feu. Alors, quel effet sur les disciples ? Donc des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Alors, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc ça, c'est l'effet sur le disciple, l'effet sur la diaspora maintenant. Cependant, ces langues, à l'inverse des langues dont Paul parle dans les Corinthiens, là on parle des langues compréhensibles, ne nécessitent pas d'interprétation. Ce sont les langues de ceux qui sont là, donc de toute la diaspora, présents à Jérusalem pour la fête de Pentecôte, et qui sont capables d'entendre chacun dans sa propre langue parler des merveilles de Dieu. Je relis les versets 7 à 11. Étonnés, stupéfaits, ils disaient, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Ébanites, habitants de tous là, ne comprennent pas. Mais comment se fait-il qu'on entende parler des choses de Dieu, des œuvres grandioses de Dieu dans notre langue ? Ouais, il y en avait quand même quelques-uns qui se moquaient. Notons pour terminer avec les faits que si certains qui entendent des choses magnifiques et d'autres se moquent, ils sont pleins de vin doux, verset 13. Mais d'autres, au nombre de 3000, se convertiront suite à la prédication de l'apôtre Pierre. Et si on parle des effets, c'est bien là l'essentiel. C'est certainement là et de loin le fait le plus important après le don du Saint-Esprit. Voilà pour les faits. Venons-en maintenant à la signification de tout cela. Quel sens donner à ces événements ? Que faut-il comprendre et retenir ?
D'abord, il faut souligner que la Pentecôte est la réalisation de la prophétie du prophète Joël annonçant la venue du Saint-Esprit. Donc, le prophète Joël nous dit... ces gens ne sont pas ivres. Enfin, ça c'est d'abord c'est Pierre qui parle. Hein. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Pentecôte est donc premièrement l'accomplissement de la prophétie de Joël annonçant l'effusion du Saint-Esprit. Et puis, bien sûr, il y a la promesse de Jésus. C'est aussi deuxièmement la réalisation de la promesse faite par Jésus lui-même d'envoyer le Saint-Esprit, le Consolateur ou le Défenseur, selon les versions, de ne pas laisser ses disciples orphelins, mais de leur donner l'Esprit de Dieu qui fera d'eux les témoins du Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Pentecôte est donc deuxièmement l'accomplissement de la promesse de Jésus d'envoyer son Esprit. Donc retenons que ces deux événements sont la réalisation de la prophétie de Joël et celle de Jésus faite à ses disciples. Mais dans quel but ? Alors, la promesse de Jésus, qu'on relit donc les versets 4 à 8 du chapitre 1. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il, donc Jésus, leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés sur sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » La voilà la réponse. Être témoin de l'œuvre de Jésus-Christ. Et pour ce faire, être équipé, recevoir la puissance du Saint-Esprit. Une remarque sur le timing de Dieu. On peut se demander pourquoi ça s'est passé à Pentecôte. Est-ce un hasard ? Ou est-ce la providence de sa volonté souveraine ? Deux réponses. D'abord, la présence à Jérusalem de la diaspora. Donc, on l'a vu, hein, il y avait à Jérusalem ce jour-là une foule nombreuse de juifs pieux, comme nous l'avons lu, qui venaient de partout et qui allaient ensuite repartir chez eux avec la bonne nouvelle du salut et ainsi propager l'évangile aux quatre coins de la terre pour donner un coup de fouet, en quelque sorte, pour booster et accélérer l'évangélisation du monde. Deuxième réponse, une deuxième possibilité, c'est que là, on est dans le symbolisme de la fête de la Pentecôte, la fête des semaines, la fête des moissons et des prémices. Les prémices. Ben, on a déjà 3000 de prémices. Et dans d'autres moissons, une moisson spirituelle, la moisson du salut. En ce jour-là, donc, les quelques 3000 convertis sont devenus les prémices de cette grande moisson qui continue encore aujourd'hui et qui ne s'arrêtera qu'au retour de Jésus. De fêtes agricoles, des moissons, on est venu à des moissons de vie qui se donnent à Dieu par Jésus-Christ sous l'action du Saint-Esprit. Maintenant, les effets. Après la Pentecôte, les disciples ne sont plus les mêmes. Ils témoignent Ils prêchent, ils parlent publiquement. Ils n'ont plus la crainte des hommes qui les empêchaient de témoigner et qui les amenaient même à se cacher. Pourquoi ? Ils ont reçu de Dieu la puissance, celle du Saint-Esprit, qui les rend maintenant capables d'être les témoins de Dieu. Pentecôte est donc le tout premier pas de l'évangélisation du monde. C'est le commencement de cette grande mission que Jésus a confiée à ses disciples, celle de faire de toutes les nations des disciples. Les disciples, qui selon Jean 20, verset 19, se cachaient dans la crainte de leurs ennemis, changèrent soudain de comportement. Ils ouvrirent leurs portes et se rendirent dans les quartiers de la ville les plus fréquentés pour y prêcher hardiment Jésus. L'esprit avait complètement transformé ses disciples. Ils devinrent courageux, porte-parole de l'Esprit, proclamant à tous le message de l'Évangile. L'illumination de leur esprit transforma leur conception des choses. Le principal orateur, ce jour-là en tout cas, c'est Pierre. Ses paroles témoignent d'un mélange de courage, de sagesse et de doigté dont peut-être nous n'aurions pas cru capable Pierre, le Pierre des évangiles qui partait au quart du tour, ainsi que d'une compréhension de l'œuvre du Messie et de la nature de son royaume. Lui qui était resté étrangère jusqu'à maintenant. Cette remarque ne concerne pas seulement Pierre. Et à partir de ce jour, toutes les paroles et toutes les actions des chrétiens de l'Église apostolique portèrent la marque d'une force nouvelle et qui ne venait pas d'eux-mêmes. Lorsque Pierre eut achevé de parler, un grand nombre de ceux qui l'avaient écouté furent convaincus de leur état de péché et de leur besoin de salut, et ils demandèrent à Pierre qu'est-ce qu'il devait faire. Pierre leur dit qu'il devait se repentir d'abord et se faire baptiser, et il recevrait le don du Saint-Esprit. Et le résultat, ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Et maintenant, vous savez que certains chrétiens recherchent le don du Saint-Esprit, qu'ils nomment aussi baptême du Saint-Esprit, qui se manifeste généralement par le parler en langue. Pierre, dans sa prédication, trouvait personnellement regrettable, Pierre, je parle de Pierre Marquès, pas l'apôtre, dans une prédication, donc, il trouvait regrettable que Pentecôte soit beaucoup plus associé au baptême du Saint-Esprit, au parler en langue, qu'à l'évangélisation du monde, qui est indubitablement une des raisons principales de l'équipement de l'Esprit qui est donné aux disciples. Vous serez mes témoins. À noter que dans notre texte, il ne s'agit pas du parler en langue, mais du parler en d'autres langues qui, elles, étaient compréhensibles. Et dans son ouvrage, Léon Maurice dit la chose suivante. Pentecôte représente le don définitif de Dieu. Certains soupirent parfois après une autre Pentecôte, et prient dans ce sens. Ils pourraient tout aussi bien prier pour une autre crucifixion. Chacun de ces événements représente un acte divin qui ne saurait se répéter. Lors de la Pentecôte, Dieu a donné à l'Église l'Esprit dans sa plénitude. Et ce don est irrévocable. Ce serait intéressant de creuser la question, mais cela nous entraînerait bien trop loin et nous prendrait trop de temps. Notons simplement que le livre des Actes est un livre historique situé à la charnière de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance, et que les événements qui y sont relatés sont uniques et non normatifs. Ajoutons que nous avons tous été baptisés du Saint-Esprit. Voici ce que dit Paul aux Corinthiens, Et maintenant, en effet, que nous soyons juifs, grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu à un seul esprit. Léon Maurice ajoute, certains chrétiens pensent que le don du Saint-Esprit est réservé aux meilleurs d'entre eux. Cette conception est diamétralement opposée à celle du Nouveau Testament, où la marque distinctive du croyant est précisément le fait de posséder l'Esprit. Et d'ailleurs, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Et à l'inverse, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui était promis. Éphésiens 1, 13 et 4, 30. L'usage du sceau, vous avez été scellés. Hein. L'usage du sceau était fréquent à l'époque néo-testamentaire, où la plupart des gens étaient illettrés. Et donc, une des manières de signer, en quelque sorte, était d'apposer son sceau, ce qui constituait un titre de propriété. Ainsi, le sceau du Saint-Esprit est la marque que nous appartenons à Dieu. Ainsi, si nous appartenons à Dieu, nous portons la marque de Dieu. Son Esprit habite en nous. Il ne faudrait pas penser non plus que l'Esprit, après avoir insufflé la vie du croyant, prenait poliment congé de lui. Non, l'union est permanente. Le Saint-Esprit habite en nous. 2 Timothée 1, 14. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ? Quand on lit ça, ça fait drôle quand même. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit habite en vous ? Ne le savez-vous pas ? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. La présence permanente de l'Esprit est un élément très précieux de la foi chrétienne. Jésus avait dit à ses disciples qu'il était avantageux pour eux qu'ils partent. Et il ajouta que s'ils ne partaient pas, le Saint-Esprit ne viendrait pas. La plupart des chrétiens se sont sans doute dit un jour qu'il aurait été merveilleux de vivre au temps de la Palestine, à l'époque où il y avait le Seigneur, de le voir, d'entendre ce qu'il racontait, ses histoires, ses paraboles, avoir un contact personnel avec lui, pourquoi pas. Mais Jésus nous dit que nous avons en quelque chose de mieux que cela. Nous avons dans nos cœurs la présence même de Dieu, le Saint-Esprit. Depuis l'ascension de Jésus, l'Église n'a jamais été privée de la présence de Dieu. Depuis que son maître est retourné au ciel où il se trouvait auparavant, il n'a pas laissé son Église sans consolation ni défense. La présence vivante de l'Esprit est pour l'Église l'assurance qu'il subvient toujours, toujours à tous ses besoins. L'Esprit de Dieu est actif et souverain dans l'Église. Prenons conscience de tout cela et soyons reconnaissants, joyeux de participer à l'œuvre de Dieu en étant des témoins puissants, non par nos paroles ou notre éloquence, mais par l'action puissante de l'Esprit qui est en nous. Amen.